Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum de Studio Kalangou. Au micro, Moussa Maman de la radio Sahara FM, une radio partenaire du Studio Kalangou. Le forum, c'est Terre Appel, est diffusé sur l'ensemble de 8 régions du Niger grâce à un réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires. À Agadez, vous écoutez ce forum sur les ondes des radios Sahara FM et Nomade FM. Le forum d'aujourd'hui a pour thème insuffisance des infrastructures au sein des écoles publiques d'Agadez, quel impact sur le bon déroulement de l'enseignement. Dans la commune d'Agadez, au total, 95 classes en paillote et 10 établissements non clôturés ont été recensés courant cette année 2024 par la Direction régionale de l'éducation nationale. Cette situation des infrastructures scolaires au sein des établissements publics impacte le bon déroulement de l'enseignement selon les responsables de l'éducation. Au-delà, le nombre élevé des classes en paillote augmente les risques d'incendie, mettant en danger la vie des élèves, des enseignants et de toute la société. Qu'est-ce qui explique l'insuffisance des infrastructures scolaires de la ville d'Agadez? Quelles sont les conséquences sur la qualité de l'enseignement? Et quelles sont les pistes de solutions pour en débattre? Nous avons invité M. Abdraman Tourawa, c'est le maire de la commune urbaine d'Agadez. Monsieur le maire, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Oumarou Hassan, directeur régional de l'éducation nationale. Monsieur Oumarou Hassan, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons Monsieur Ibrahim Atefok, président de la Fédération communale de COGES. Monsieur Atefok, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue et à tous. Voilà, donc le problème du manque d'infrastructures scolaires dans les établissements publics de la ville d'Agadez préoccupe aujourd'hui plus d'un. Pour illustrer le problème, je vous propose d'écouter le proviseur du complexe d'enseignement secondaire CS Mohamed Tourawa, situé dans la commune urbaine d'Agadez.
On n'a pas les murs de clôture, nous n'avons pas de latrines, nous manquons aussi pas un bloc administratif. Bref, nous manquons de tout ici, très sincèrement. Et je dis bien, c'est pas donc que j'ai profité de ces micros-là, pour lancer un appel à l'ensemble de nos partenaires de l'école, mais aussi et surtout, n'est-ce pas, à l'ensemble, n'est-ce pas, vraiment des autorités de la région d'Agadez, pour qu'ils aient pitié de nos enfants, de nos élèves. Parce qu'il faut savoir que, n'est-ce pas, le fait qu'on n'a pas de murs de clôture là, ça a fait que maintenant, ça a créé des types de sécurité. Nous sommes dans une insécurité absolue, n'est-ce pas? Les enfants ne seront pas sereins une fois en classe de la classe. Il y a une instabilité, n'est-ce pas, croissante de l'établissement. À tout moment, n'est-ce pas, nous voyons, n'est-ce pas, des bandits, n'est-ce pas, des gens qui sont là, n'est-ce pas, qui prennent, n'est-ce pas, de la drogue, n'importe quoi, hein, des délinquants, hein, qui sillonnent, n'est-ce pas, qui viennent même, en fait, qui ont accès à la cour, n'est-ce pas, et qui viennent, n'est-ce pas, kidnapper, n'est-ce pas, même nos élèves filles. Imaginez-vous, n'est-ce pas, nos élèves filles, n'est-ce pas, des amis qui viennent, n'est-ce pas, les kidnapper. Donc vraiment, c'est assez sérieux, n'est-ce pas, et sur le plan, n'est-ce pas, nous demandons encore, n'est-ce pas, je lance un cri de cœur, n'est-ce pas, à l'ensemble, n'est-ce pas, de la personne d'Agadez, pour que chacun, n'est-ce pas, à ceux qui le concernent, n'est-ce pas, qu'ils viennent, n'est-ce pas, nous aider, conformément à ces moyens.
Voilà, monsieur Oumarou Hassan, vous êtes le directeur régional de l'éducation nationale d'Agadez. Vous venez d'écouter ce témoignage. Comment vous trouvez les propos de cet acteur de l'éducation?
Donc, bonsoir. Encore une fois, merci pour l'occasion que vous nous offrez souvent, en tout cas, de donner, en tout cas, la voix ou la vie de l'administration scolaire. Et effectivement, le proviseur du CES Tourawa, c'est un établissement que j'ai également visité. Effectivement, et c'est un établissement qui n'a pas de mur de clôture. C'est vrai, il n'y a pas de mur de clôture. Ça pourrait être, comme il l'a dit, une source d'insécurité. Parce que quand il n'y a pas de mur de clôture, tout le monde passe dedans. Et également l'emplacement, et je crois que l'environnement, parce que c'est aussi un tassement qui est entouré d'arbustes, tout ça là, ça peut effectivement être source d'insécurité. Et je suis entièrement d'accord, mais ce que je voudrais quand même savoir, redire quand même, quand vous voyez le nombre d'établissements qu'il y a à Agadez, le nombre d'établissements clôturés, et le temps de transition sans clôture, on peut dire quand même, c'est vrai, c'est un cas et pas tant, mais il y a quand même des efforts aussi qui ont été faits. Quand vous regardez ailleurs, moi je pense que, en tant que premier responsable de l'administration, je peux dire que c'est vrai, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut reconnaître aussi que beaucoup de choses ont été faites.
Voilà, comme je le disais plus haut, votre direction a recensé au total 95 classes en paillote et 10 établissements non clôturés courant cette année 2024. Est-ce que ces chiffres ont évolué?
Bon, ces chiffres, en tout cas, sont en train d'être évolués. Vous savez, c'est maintenant que les différentes collectivités sont en train de mettre en œuvre, vouloir mettre en œuvre leur budget pour 2024. Or, c'est dans ce budget-là qu'on va pouvoir, en tout cas, commencer et finaliser les infrastructures. De la même façon, l'État également, Il y a des infrastructures qui sont en chantier, en tout cas qui ont été prévues aussi dans le budget de 2024 pour être en tout cas achevées. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, en tout cas les chiffres que nous avons donnés vont évoluer. Et par rapport à ces paillotes-là, quand nous regardons dans la commune urbaine d'Agadez, quand nous comparons le nombre des infrastructures que nous avons en matériaux définitifs par rapport aux paillotes, c'est exorbitant. Par exemple, il suffit juste de prendre la partie primaire. Nous avons environ 1927 classes en matériaux définitifs. Donc quand vous les comparez à 95 paillotes, je pense que c'est pourquoi j'ai dit que beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique l'insuffisance des infrastructures scolaires dans ces établissements dans la ville d'Agadez en général?
Bon, ça peut être dû à plusieurs raisons. Hein. Parce que vous savez, le principal problème que nous avons aujourd'hui qui amène l'insuffisance de ces infrastructures, c'est que la carte scolaire n'est pas du tout respectée souvent. Lorsque l'État crée les écoles, une école, pour la créer, il y a des conditions qu'on doit remplir. Quand un établissement, en tout cas le COGES, ils font la demande pour la création d'emploi, ils prennent un engagement que la première classe dans laquelle les élèves vont rentrer, parce que l'État n'a pas encore prévu de créer, c'est à leur volonté qu'ils veulent qu'on crée cet établissement-là. Il y a des conditions qu'ils doivent remplir. Nous allons construire la première classe dans laquelle les enfants vont rentrer, ce qui ne se fait pas du tout. Vous allez voir, ils ont pris cet engagement juste pour qu'on puisse ouvrir l'école. On ouvre l'école, ils oublient carrément leur engagement et on est obligé, parce que l'école est déjà créée, il faut que ces enfants-là soient quand même sous un toit pour pouvoir prendre les enseignements apprentissage. Ce qui fait que la collectivité ou en tout cas les responsables sont obligés de faire au moins un hangar. Ça, c'est l'un des aspects. Le deuxième aspect, c'est aussi, comme on a dit, la population scolarisante qui a galopante. Surtout à Agadez, ce qui aggrave le cas, c'est que Agadez est une zone de migration, la migration interne, les déplacés internes, tous ces gens-là sont pris en charge en réalité par nos établissements qui sont ici. C'est aussi l'un des facteurs pour lesquels nous avons un taux élevé d'enfants scolarisables. Le troisième aspect, c'est aussi les moyens. Il vous souviendra que, je crois, au dernier pas, en réalité, c'est à travers souvent les redevances minières qu'on donne aux collectivités. En grande partie, en tout cas là où j'ai vu, c'est ça surtout ils utilisent dans ces infrastructures des secteurs sociaux de base, notamment la santé. Or, ça fait plusieurs années aujourd'hui que ces collectivités-là n'arrivent plus à recouvrer ces redevances minières-là.
Merci.
Ça peut aussi être un des facteurs.
Nous sommes avec le premier responsable de la commune urbaine d'Agadez, M. Abdramane Tourawa, maire de la commune d'Agadez. Êtes-vous en contact avec les responsables de l'enseignement sur ces problèmes des infrastructures scolaires dans votre entité?
Merci Moussa. Et je salue aussi l'auditoire des studios Kalangou d'Agadez et des 8 régions du Niger. Donc c'est une belle occasion que vous nous offrez chaque fois, comme l'a dit M. Ledren, pour expliquer les problèmes sociaux à notre vaillante population. Donc avant de répondre à cette question, j'aimerais aborder un point essentiel évoqué par Ledren. Comme vous le savez, Agadez constitue aussi une particularité démographique, puisque toute planification est basée sur la composante démographique. Si vous prenez cette composante aux chiffres, aux statistiques officielles, donc que nous avons au niveau de l'Institut et de la statistique, vous verrez que Agadez devrait être, suivant l'actualisation des recensements généraux des populations de 2012, autour de 160 000 habitants en 2022. En 2023, nous avons constaté, dimanche, réellement plus de 300 000 habitants, soit le double de cette population. Donc, la réalité est autrement. Si nous prenons les réalisations en fonction de l'évolution démographique officielle, nous serons surpris puisque les besoins sur le terrain sera doublé. Et c'est cette réalité que nous avons. aussi, donc, par rapport aux chiffres que vous avez avancés des 95 classes, donc je crois qu'il fallait les éclater en besoins pour les établissements primaires qui sont donc sous la coupe des collectivités municipales et les établissements secondaires qui sont sous la coupe des collectivités régionales. Ça sera plus important puisque nous, à notre niveau, donc depuis 2021, lors de l'installation de notre conseil municipal, nous avons une programmation progressive et l'objectif qui le conseil municipal s'est fixé sur les 5 ans, c'est effectivement d'arriver à zéro classe payote. Nous sommes là-dessus puisque de 2021, nous étions sur un total au niveau des établissements primaires, un total de 89 classes en payote.
En
2021. Et durant les 6 mois de notre exercice, on a pu, avec des partenaires, réaliser 3 classes. Donc en 2022, nous étions à une réalisation de 21 classes. Donc sur un objectif annuel de 30 classes pour qu'en 2026, nous arrivons au terme des classes payotes. En 2023, nous étions avec l'État et les partenaires à une réalisation de 45 classes, dont 30 sont en cours de réalisation. Sur ces chiffres, déjà en 3 ans, nous pouvons totaliser 69 classes en matériaux définitifs dans la commune urbaine d'Agadez pour le secteur du public. Donc, et sur ça, on a 30 classes en matériaux non définitifs qui ont été octroyées, que nous n'intégrons pas dans notre statistique, puisque là, nous ne sommes pas face à des classes définitives. Ça, c'est des classes évolutives, des classes en matériaux non définitifs. Donc, c'est un appui des partenaires. Et la commune d'Agadez a reçu 30 classes. Si nous ajoutons à 69, on devrait être à 99. Mais restons en toute rigueur à 89 classes. Soit si nous partons des besoins de 2021, à peu près une vingtaine de classes en payote qui doivent rester. Or, je crois que nous allons, dans les questions à venir, donc voir les planifications communales, puisque déjà en 2024, notre budget et notre plan d'investissement annuel prévoit de quoi peut-être être proche de l'objectif zéro payote. Donc en ce qui concerne les secondaires, j'ose dire que le premier problème qui a été déjà souligné, les drains et témoins, est une préoccupation du conseil régional. La clôture de l'école, de l'établissement Mohamed Touraoua constitue toujours un point de débat autour du gouvernorat et du conseil régional d'Agadez. Donc c'est un établissement, je m'inscris à tout ce que le proviseur a dit, c'est une réalité, il y a des menaces sécuritaires, il y a vraiment de quoi rapidement, et ce problème est dans l'oreille des autorités. Et des planifications sont en cours pour vraiment résoudre ces problèmes.
Monsieur le maire, selon vous, où se situent les responsabilités?
Bon, les responsabilités, un des points importants avec les drains, on a évoqué, c'est cette évolution démographique de la ville d'Agadez. Nous sommes un carrefour, nous avons non pas une migration externe, mais une migration interne. Ce qui signifie que c'est des Nigériens qui viennent. Aujourd'hui, nous avons un grand nombre. Cela se justifie par plusieurs raisons, des raisons sécuritaires. Agadez est un havre de paix. Vous avez tous les pays de la sous-région et certaines régions menacées, donc qui trouvent leur refuge vers Agadez. Nous avons les raisons économiques avec les productions agricoles locales et les sites d'orpaillage. Donc, plusieurs raisons justifient la présence massive donc, des déplacés internes au niveau de la région. Et qui dit déplacés, il faut aussi assurer leurs besoins. Le premier besoin social, c'est l'eau, la santé, l'éducation. Donc, si vous le comprenez, donc c'est une raison de dire que toutes nos planifications locales doivent tenir compte de ces paramètres migratoires qui est important et souvent qui constitue un casse-pied, un casse-tête, disons, pour nos statistiques locales.
Merci, Monsieur le maire. Monsieur Ibrahim Atefok, vous êtes le président de la Fédération communale de COGES. En tant que parent, quelle analyse faites-vous de cette situation d'insuffisance d'infrastructures dans les écoles?
Salam alaikum. Donc, merci au studio Kalangu et aussi participants à ces débats. Moi, je pense que l'un des problèmes que l'on peut situer, la majorité vraiment des difficultés sont en train d'être prises en charge par la commune ici à Agadez. Parce que moi, je parlerai plus de la fédération communale. Donc, je ne vais pas parler du second degré. Le second degré, ce sont eux qui sont les COGES. Donc, ils ont la fédération départementale. Donc, moi, je vais plus m'apesantir sur la fédération communale. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits, comme le stipule la loi ZEN. La loi ZEN, c'est la loi d'orientation éducative au Niger. Donc, elle stipule qu'il y ait l'État, les collectivités territoriales, la communauté et aussi les partenaires. Nous, ici à Agadez, la communauté est vraiment très active dans le domaine éducatif parce que si on s'en tient juste à rien que cette année, au début de l'année, il y a eu beaucoup de planifications qui ont été faites dans les écoles. Les parents vraiment sont très actifs dans tout ce qui concerne l'éducation ici à l'école. Maintenant, si on revient sur les paramètres de ces écoles, beaucoup est en train d'être fait, beaucoup a été fait, mais nous souhaitons qu'il y ait plus encore pour que nous puissions vraiment mettre les enfants en sécurité. Nous avions échangé de cela quelques temps avec le maire et il nous a promis qu'il va tenir compte de toutes les difficultés que nous lui avions posées. C'est toujours autour des murs des écoles. Donc, il y a des écoles qui sont en train d'être murées, si je peux utiliser le mot, ou en train d'être. Donc, en train d'être, ça veut dire que la réflexion, elle est là. Maintenant, vous savez, avec cette situation dans laquelle on se trouve depuis le 26, il y a beaucoup de partenaires qui se sont retirés. Et tous les partenaires qui se sont prononcés avant le 26, cela impacte aussi sur, je pense bien, le maire le dira, sur toutes les programmations qui sont faites. Mais moi, je pense qu'ici, au niveau de la commune urbaine d'Agadez, les parents vraiment font de leur mieux. Parce que vous avez le budget provisionnel de CGDS qui fait 69 millions. Au début de l'année, et au partir du 14 janvier, la FCC a tourné dans les écoles et nous sommes à un taux de recouvrement de plus de 29 millions, donc on avoisine déjà les 50%.
On va revenir sur ce que vous êtes en train de faire. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre l'accent cette fois-ci sur l'impact des manques d'infrastructures dans les établissements publics d'Agadez. Alors, monsieur le directeur régional de l'éducation nationale, si les classes sont insuffisantes, l'on fera face à des classes pléthoriques. Alors, quelles sont les conséquences sur la qualité de l'enseignement?
Donc, merci. Effectivement, c'est en fait la première conséquence que nous allons avoir avec l'insuffisance des infrastructures, notamment les classes. C'est vraiment les classes pléthoriques. Parce que quand il y a cette démographie galopante qui est là, il faudra beaucoup d'infrastructures. Or, même les paillettes dont on parle souvent, c'est juste la paillette qu'on fait, mais les tables n'accompagnent pas. Ça veut dire que vous allez voir dans une classe de CI ou de CP ou de CE1, 80-90 élèves, je crois que c'est pléthorique. Au secondaire, vous allez trouver des classes de 6e de 150 élèves, assis à même le sol. Ça également, on ne peut pas parler de... Parce que pour que l'enseignement apprentissage puisse être efficace, il faudra d'abord que l'enfant soit dans les conditions d'apprentissage. Quand la classe est pléthorique, il n'y a pas de silence. L'enfant est perturbé. Quand la classe est pléthorique, l'enfant n'a même pas où s'asseoir correctement pour écrire. Quand la classe est pléthorique, l'enseignant qui est là pour donner le savoir, il aura des sérieuses difficultés. Toi, dans ta formation, on t'a appris à dire que et les textes disent que c'est 50-60 élèves dans ta classe, tu viens, tu te retrouves avec 160 élèves. C'est également un imbroglio pour l'enseignant. L'enseignant, comment maîtriser 180 élèves? Parce que l'enseignant dans sa classe, il doit individuellement suivre chaque élève. La manière d'apprendre chaque élève, normalement, l'enseignant doit l'apprendre. Et je crois 180 élèves, les suivre, suivre le tableau, ça sera très, très difficile. C'est pourquoi, encore une fois, je dis toujours chapeau aux enseignants, parce que nous, quand on enseignait, on n'avait pas enseigné dans des conditions aussi difficiles que ça. Et je crois que ça, il faut saluer les enseignants qui sont en train de le faire aujourd'hui. C'est extrêmement difficile de gérer 160 enfants de CI. Il faut voir ces enfants de 7, 8 ans. Comment les gérer? C'est difficile de gérer 150 enfants de 6e qui sont à leur début d'adolescence. C'est pas facile. C'est dire que la pléthore dans les classes est la première conséquence de ces infrastructures. Et ça ne permet pas la qualité de l'éducation. Parce que la qualité de l'éducation suppose des conditions d'apprentissage acceptables. Or, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Et c'est particulièrement dans la commune que vous trouvez ça. Parce que c'est là qu'il y a vraiment le grand flux. Quand vous sortez un peu à la périphérie, vous ne trouverez pas ces classes pléthoriques. C'est seulement dans les villes. Particulièrement dans les villes d'Agadez où, comme on l'a dit, en réalité, même les statistiques ne maîtrisent pas le flux qui vient. Parce que avec l'orpaillage tout, c'est vraiment une ruée vers Agadez aujourd'hui. Et je pense que cette pléthore-là impacte négativement sur vraiment les enseignements et apprentissages. Et c'est pourquoi j'ai toujours appelé pour que... C'est vrai, on a dit de ne pas faire les paillotes, d'aller vers paillotes zéro. Parce que les paillotes, ils ont, on va revenir dessus, ils ont aussi leurs inconvénients. Mais moi, je pense que, autant que l'enfant soit dans cette paillote, que de ne pas avoir de classe. Moi, je pense que, en tant qu'enseignant, je préfère être sous une paillote avec mes élèves que de me retrouver avec une pléthore dans une classe en matériaux définitifs. Donc, moi, je pense que les infrastructures, c'est vrai, ce n'est pas la seule condition, mais c'est une condition importante pour que la qualité de l'éducation y ait.
Alors, monsieur le maire, on revient avec vous. Vous avez écouté les drains, il a parlé des classes pléthoriques, des conséquences sur la qualité de l'enseignement. Quelle réponse apportez-vous vraiment à cette situation?
Bon, c'est une question plus technique sur les planifications communales que nous venons de déballer. Donc, il faut reconnaître qu'il y a souvent des phénomènes exceptionnels qui peuvent intervenir. Et il vous souviendra qu'en septembre 2023, la commune d'Agadez a connu un phénomène exceptionnel, un vent d'une rare violence qui a impacté malheureusement une trentaine de classes. On a réussi entre classes, murs de clôture, 33, donc infrastructures endommagées. Et cela nous amène donc à vraiment une replanification, j'allais dire, de notre financement au niveau du secteur infrastructure. Et ces phénomènes exceptionnels fait aujourd'hui que quand vous partez dans certains établissements, vous allez voir une classe donc endommagée qui à côté de laquelle il fallait faire une classe en paillote en attendant la réhabilitation. 33 classes, c'est beaucoup puisque en termes de réhabilitation, ça coûte un peu cher. Et le coût global de ces 33 infrastructures, classes et murs, nous amène à un système de passation des marchés. Et notre plan de passation des marchés n'a été validé qu'avant-hier. Comme vous le savez, il y a eu un changement au niveau administratif. le directeur général des passations du marché a été changé et il a fallu la semaine passée pour passer aux signatures des plans de passation des marchés qui sont sur les tables de cette institution. Le plan est déjà signé et à travers ces plans, nous avons une enveloppe qui est prévue par la commune pour la réhabilitation des classes et des murs de clôture. En plus, la question va venir sur les planifications locales pour résorber les problèmes cruciaux des manques de classes. Donc, actuellement, nous sommes déjà sur l'engagement puisque les études ont été faites, les budgets de réparation ou de réhabilitation étant connus. Maintenant, nous sommes sur le principe de passation des marchés pour que l'ensemble des classes et des murs de clôture endommagés soient réparés dans les meilleurs délais. Nous sommes sur ce processus et vraiment c'est un fardeau de voir une centaine d'enfants sur un même toit en train d'apprendre. C'est vraiment, il faut un surpassement pédagogique pour arriver à juguler le problème des tintamarres qui peut se créer autour de cette classe.
Merci, monsieur le maire. Monsieur Ibrahim Atefok, président du FCC, Fédération communale de Cogès, quelles conséquences directes sur les scolaires?
Moi, je pense que c'est le problème, il est purement technique, mais seulement tellement qu'on a côtoyé ou a côtoyé les techniciens d'éducation, nous avions constaté qu'il est aussi difficile pour un enseignant d'enseigner 120 ou 80 élèves dans une même classe. Mais seulement la communauté, pour éviter que les enfants errent dans le riz, et la communauté s'est engagée ou s'est engagée aussi à construire des classes en paillotte ou des classes en banco. Vous voyez, si ces classes en banco et en paillotte ne sont pas construites, alors là, vous aurez plus de des milliers d'enfants qui seront privés de leurs droits qu'est l'éducation. Donc, en attendant toujours que les collectivités territoriales et le ministère puissent répondre à ces difficultés. Donc, des classes en paillotte sont construites et en banco pour éviter vraiment que les enfants restent à la maison. Vous voyez? Parce que c'est un droit pour tous les enfants d'être éduqués, mais seulement aussi ces classes en paillotte autres.
Donc, comme je dis, ces classes-là, elles ont des conséquences directes sur les scolaires?
Elles impactent sur le déroulement même des cours parce que vous avez des enfants qui sont assis par terre, empilés des fois. Vraiment, moi, j'ai vu dans des écoles où les enfants ils sont empilés. Il est très difficile pour eux de se courber ou bien de trouver un espace pour écrire. Vous voyez, c'est comme vraiment, ça impacte sur la santé premièrement des enfants. Ce qui nous a amené à un certain moment, l'État a fermé les écoles à cause du Covid. Ce n'est qu'un rappel pour mieux m'orienter. Vous voyez, quand les enfants, un enfant, quand il est à l'école, il doit pouvoir s'asseoir. Et on a aussi fait le constat que des fois, vous pouvez voir des enfants, d'autres assis sur des tables, d'autres assis à même le sol. Il y a vraiment des difficultés. Et nous souhaitons que l'État, les collectivités puissent trouver les moyens de résoudre ces gaps.
Merci, M. Ibrahim Atefok. Dernière partie de ce forum qui porte sur les voies et moyens à suivre pour solutionner ce problème. Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale, qu'est-ce qui est fait au niveau de votre direction pour solutionner ce problème?
Donc, merci. Donc, pour solutionner le problème d'infrastructure, la première disposition que nous, en tant qu'administration, nous allons prendre, c'est le respect de la carte scolaire par rapport à la création même des établissements. C'est vrai, il faut créer lorsqu'il y a le besoin, mais quand même, il faut quand même être dimensionné. Pour que nous puissions exactement savoir, l'année prochaine, nous allons créer telle école, telle école, telle école, et qu'on puisse prévoir avec les collectivités aussi, pour qu'ils ne soient pas aussi surpris. Pour qu'on puisse, avec les collectivités, savoir qu'est-ce qu'on doit prévoir l'année prochaine. Donc, je crois que le respect de la carte scolaire est important. Le deuxième aspect, c'est le plaidoyer vers les partenaires de l'éducation, pour que eux aussi qu'ils apportent, en tout cas, leur appui, surtout en termes d'infrastructure. Parce que je vois les partenaires, ils vont souvent vers formation de... Non, l'État a les moyens souvent de former ses enseignants. Nous voulons surtout qu'ils nous appuient en termes d'infrastructure. Pour ce qui est du suivi, accompagnement des enseignants, Dieu merci, en tout cas, on a le minimum pour le faire. Le troisième, c'est aussi lancer un appel aux collectivités. Parce que aujourd'hui, avec les transferts de compétences, les collectivités ont quand même, en plus de l'État, un grand rôle aussi à jouer dans la mise à disposition de ces infrastructures-là. C'est vrai, ils font beaucoup. Comme on dit, quand il y a, c'est un océan qu'on a aujourd'hui. Fils-Billah, c'est difficile, mais moi je pense que ils doivent encore voir comment augmenter davantage l'enveloppe parmi les secteurs sociaux de base, voir qu'aujourd'hui l'école est devenue un casse-tête et que l'enveloppe doit encore, ils doivent encore faire un effort pour augmenter cette enveloppe-là, surtout dans les infrastructures. Parce que, comme je l'ai dit, les infrastructures, le manque d'infrastructures constitue un caillou dans nos souliers. Parce que c'est un mobile aujourd'hui de la baisse de niveau. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas, l'enseignant, il sera difficile de faire passer le message dans certaines circonstances. C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Pour qui a enseigné il y a quelques années et comment les enseignants sont dans les classes, je vous assure, ils vous feront pitié quand vous allez les trouver en main. Vous trouvez en main un enseignant, une enseignante en train de suer dans une classe de 180 élèves. Regardez comment sera l'atmosphère. C'est extrêmement difficile. Donc, je lance encore un appel vers l'État également, qui doit être le premier responsable à mettre. Et je crois que cette année, Dieu merci, on a fait déjà le pas. J'ai vu que, vraiment, je chapeau aussi aux collectivités. En tout cas, ils ont des bonnes intentions cette année en termes d'infrastructure. Donc, vraiment, et je les encourage pour qu'on puisse aller vers, en tout cas, le soulagement de l'école, le soulagement des élèves, le soulagement des enseignants. Et de nous autres administrations, parce que lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure, nous aussi nous sommes interpellés. Ici, il n'y a pas de classe. Quand on fait nos visites, non, on a vraiment des grincements au cœur, parce que nous savons ce que et les élèves et les enseignants endurent.
Merci. Monsieur Atefok, selon vous, quelles sont les voies à suivre pour gérer définitivement ces problèmes d'insuffisance d'infrastructure scolaire dans la commune?
Bon, les voies, sûrement, ça ne peut être que les collectivités territoriales et les administrations scolaires, parce que la communauté ne peut pas construire des classes en matériaux définitifs. Ce que nous pourrions, nous, c'est construire vraiment en attendant des espaces qui peuvent contenir quelques enfants pendant un certain moment. Maintenant, ils reviendraient à ces collectivités-là de faire les plaidoyers et d'essayer de trouver les moyens adéquats. Moi, je ne sais pas pour toutes les autres communes, mais quand même ici, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Il n'y a pas la semaine, rien que la semaine passée, je pense qu'à Sabongeri 3, il y a eu 3 classes qui ont été réceptionnées. Et l'un des gros problèmes aussi, c'est que vous avez beaucoup de classes qui sont en chantier, qui sont vraiment, les activités sont en stand-by. Vous voyez, depuis les événements de 30 classes, vous voyez. Donc ces 30 classes-là, si les opérateurs économiques qui ont la charge de finaliser cette activité, nous profitons de l'occasion d'ailleurs pour faire un plaidoyer pour que les autorités puissent avoir un regard là-dessus, soit les interpeller pour qu'ils finissent. Ouais. Quand on aura ces 30 classes-là définitives, donc ça va vraiment soulager. C'est que ça, c'est vraiment un de sérieux problèmes qui impacte ici dans la commune urbaine d'Agadez. Vous voyez, beaucoup de 30 classes qui sont en chantier. Et vous voyez, ça, pour les primaires 30 classes, donc, vous voyez, toutes les prévisions sont en train d'être faites, mais elles échouent beaucoup parce qu'il y a ces difficultés-là. Et aussi, par rapport au respect de la carte scolaire, comme le dit le directeur régional aussi. Ça aussi, on a vraiment besoin que l'école, en la créant, qu'elle soit réfléchie avant même de la créer. Parce que des fois, c'est de créer plusieurs écoles. tous les 5 km ou 3 km, ça impacte beaucoup aussi parce qu'après, personne ne peut suivre ni les collectivités territoriales, ni les administrations scolaires. Personne ne peut suivre, ni la communauté aussi.
Vous avez tout à l'heure parlé de ce que vous collectez vraiment au sein des établissements. Vous avez parlé d'une certaine somme tout à l'heure dans votre introduction. Alors, quelle contribution faites-vous vraiment pour la gestion de ces infrastructures scolaires niveau de COGES?
Voilà. Donc, au niveau de CGRS, ce qui est un des freins de CGRS, c'est que, comme vous l'entendez, c'est gestion, comité de gestion des établissements, décentralisé des établissements scolaires. Donc, chaque école gère son budget. Donc, quand je parle de 70 millions et quelques, ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les COGES de la commune. Si on peut changer cette loi, parce que moi, je suis partant pour que cette loi change, qu'on fédère aussi, comme les CGRS, ils sont fédérés, il faut aussi fédérer le revenu des CGRS-là. Je pense que quand nous, en tant que CGRS, la communauté, quand elle va apporter sur la table 70 millions, la collectivité va mettre sa part, l'État va mettre sa part, on pourra vraiment résoudre les problèmes des manques de classes. Même si c'est construire quelques classes, chaque année, on se donne, comme le disait le maire, c'est donné...
L'argent-là, il s'est utilisé comment?
Mais l'argent, il est utilisé au niveau de chaque école. Chaque école, chaque CGRS utilise son argent.
Qu'est-ce qu'elle fait? Au moins, vous avez une idée de ce que les écoles font?
Normalement, c'est pour vraiment acheter soit des craies, des petits matériaux au niveau de chaque école. Mais maintenant, la gestion, nous essayons d'être vraiment rigoureux pour que les CGRS soient bien gérés. Mais quand les CGRS seront bien gérés, il faut que les FCC soient aussi bien gérés et il faut qu'il y ait un regard de la collectivité. C'est ce qui manque. Nous souhaitons que vraiment que la collectivité s'implique complètement, qu'elle comprenne que les CGRS, le deuxième C, c'est communal. Donc nous sommes sous la coupe de la commune. Alors quand on aura au niveau de la commune quelqu'un qui va vraiment avoir un regard sur tout ce qui se passe, alors même ceux qui font autre chose avec cet argent, je pense qu'ils seront interpellés.
On revient avec vous, monsieur le maire. Quelles sont vos contributions dans la gestion des infrastructures scolaires de la commune?
Voilà, c'est la partie la plus importante pour nous. C'est là où nous, notre rôle régalien est le plus important. En termes de planification locale, tout à l'heure, je disais que notre plan de passation de marché est approuvé, signé vers la fin de la semaine. Et à ce niveau, nous avons déjà une planification pour les réhabilitations. Donc, il y a deux autres lignes importantes. Donc, la première ligne, donc, du plan de passation du marché consacre une enveloppe de 150 millions là pour la construction des salles de classe, clôture, équipement et des murs de clôture. Donc ça, c'est dans la planification du fonds commun sectoriel de l'éducation. Donc ce qui est bien fait devant le DREN et la FCC. Donc c'est ensemble que nous faisons cette planification et nous nous réjouissons aujourd'hui donc du retour d'un des bailleurs importants pour le secteur éducatif qui est la Banque mondiale. Donc ça nous donne le courage de continuer et nous sommes convaincus que tout ce qui est planifié dans ce sens sera investi au cours de l'année. Le second aspect, c'est sur les fonds propres de la commune. Et là, au point 18 de notre plan de passation de marché, donc, qui est un plan tiré du programme d'investissement annuel, le PIA 2024, nous avons prévu une enveloppe de 210 millions sur fonds propres pour les constructions des salles de classe et leur équipement. plisser les murs de clôture de quelques établissements pour être dans la dynamique de notre planification zéro classe paillote d'ici 2026. Donc, je les rappelle, le conseil municipal que nous présidons a un objectif, donc à la fin du mandat en 2025, que nous laissons un héritage de zéro classe paillote au niveau de la commune urbaine d'Agadez. Et comme vous le voyez, des planifications sont faites et nous pensons aisément, puisque pour ce qui est du fonds propre de la commune, nous disposons au trésor de cet important moyen et nous allons bientôt avec les PPM, les plans de passation des marchés, passer au stade d'étude, donc des autres cycles d'élaboration jusqu'au DAO pour faire passer les marchés. Il y a une omission tout à l'heure dans les planifications qui ont été faites et les réalisations déjà en cours. Donc, avec des partenaires comme le PIDIREM, donc il y a une école qui est entièrement prise en compte. Clôture et classe, c'est l'école Azine 5, je crois. C'est là, c'est une école qui a vraiment complètement échappé à toute réalisation, puisque c'était une seule classe en matériaux définitifs. Tout était en paillote. Et vraiment, quand on a été au niveau de cet établissement, on s'est étonné. Et Dieu merci, on a mobilisé un partenaire qui a pris en charge clôture et construction des classes. Malheureusement, avec notre engagement pour la souveraineté, que nous soutenons fermement, donc ce partenaire est parti. Mais là, la Banque mondiale, donc à travers le PIDIREM, quand nous étions partis voir les urgences qu'il fallait faire dans la commune, c'est cette école qui a été une priorité. Et automatiquement, le PIDIREM a pris en charge et les fonds disponibles, d'ailleurs, sur les fonds 2023, que ça devrait être fait. Le DAO a été fait. Donc, je crois qu'ils sont sur la voie de construction des classes et des murs de clôture. Je reste confiant par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire avec l'État, les partenaires qui sont encore sur place et la communauté à travers la FCC et les COGES. Je suis convaincu que c'est ensemble que nous pouvons résoudre les problèmes de l'école et la commune d'Agadez peut être une sorte de pépinière puisque, vous voyez, avec un objectif de 5 ans, zéro classe paillote, ça peut être un bon modèle pour l'ensemble des collectivités. Et nous sommes convaincus que si nous conjuguons les efforts ensemble avec l'État, les partenaires, la communauté, nous serons au bout de toutes les difficultés que nous venons d'enregistrer. Donc, je dirais qu'il sera important en fin d'année scolaire de voir ensemble autour de ces studios qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été réalisé. Ça sera une bonne chose que l'opinion qui nous écoute soit informée de la suite des engagements qui ont été pris.
Inch'Allah, avec les studios Kalangou, nous irons jusqu'à la fin quand même, nous allons le faire, Inch'Allah. C'est la fin du forum de ce soir sur l'insuffisance des infrastructures au sein des écoles publiques d'Agadez. Quel impact sur le bon déroulement de l'enseignement? Donc, on peut retenir dans ce forum, c'est vrai, le manque d'infrastructures au niveau des établissements publics, au niveau de la commune d'Agadez, constitue quand même un problème sérieux. Les participants ont proposé surtout le respect de la carte scolaire est important. L'information aussi dans la planification de la commune d'Agadez en 2025, c'est zéro classe en paillote quand même. On le souhaite quand même. Que Dieu le fasse quand même. Et merci quand même. Nous étions en compagnie du maire de la commune urbaine d'Agadez, M. Abdraman Touraoua. Merci, M. le maire.
Merci.
Nous étions aussi en compagnie de M. Oumarou Hassan, directeur régional de l'éducation nationale d'Agadez. Merci, monsieur Ledren. Et enfin, monsieur Ibrahim Atefok, président de la Fédération communale de Cogès d'Agadez. Merci.
Merci aussi.
Mesdames et messieurs, merci et au revoir.